Vous êtes sur RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et on accueille Aude Vernouchiot pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et elle a eu déjà débordé par les malades du Covid. L'hôpital de Dax doit subir une cyberattaque.
Informatique, téléphone, tout le système a planté lundi soir et les hackers réclament une rançon. Bientôt de nouvelles règles pour les enfants qui font l'école à la maison. C'est l'un des volets du projet de loi contre les séparatismes. Suite du procès des policiers de la BAC du 18e arrondissement de Paris avec des preuves audio assez accablante. Dans ce journal, vous entendrez aussi la colère d'un groupe de 20 Français bloqués au Costa Rica. Parmi eux, deux personnes malades du Covid et dans le coma. Et puis en football, comment sauver financièrement les clubs? La LFP, la Ligue de Football Professionnel, demande un plan d'urgence au gouvernement.
RTL Soir.
Une cyberattaque en pleine pandémie de Covid à l'hôpital de Dax dans les Landes. Depuis lundi soir, système informatique et liaison téléphonique sont complètement à plat. On ne peut qu'imaginer l'état de nerf dans lequel se trouvent les soignants. Quelques améliorations ces dernières heures, mais le problème est loin d'être réglé, Philippe de Maria.
Oui, amélioration pour les lignes téléphoniques, mais plus d'accès notamment aux données des patients. Impossible de voir les antécédents d'un malade. Le programme informatique pirate interdit aux soignants de se brancher sur ces informations pourtant capitales. Géraldine Madounari du syndicat CGT de l'hôpital de Dax.
C'est scandaleux, c'est révoltant. On est sur de l'humain. À l'heure actuelle, on est déjà, pour les personnels soignants et non soignants, dans une situation depuis un an terrible où on fait front et profite de la crise Covid pour justement s'attaquer aux hôpitaux. Nos collègues vont être obligés par exemple de faire le dossier patient avec le stylo et le papier. Ils vont plus pouvoir rentrer les données informatiquement. On est des professionnels et on sait gérer même en cas de crise. On l'a montré pendant cette année. Mais ça va être long et ça va être difficile et on est très fatigués. Les agents sont très fatigués.
Une enquête est ouverte pour piratage et extorsion car les hackers exigent la plupart du temps une rançon pour supprimer leur programme informatique. Le parquet de Dax s'est dessaisi au profit du parquet de Paris et des services d'enquête spécialisés.
Le reportage de Philippe de Maria à Dax pour RTL. La situation sanitaire reste ce soir préoccupante, mais elle est aussi stable pour Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Pour le porte-parole du gouvernement, il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement et il appelle les Français à rester extrêmement prudents. Depuis hier, la France a dépassé, on le rappelle, les 80 000 morts du coronavirus.
Alors que certains patrons rechignent à faire télétravailler leurs salariés, bien d'autres respectent la règle, mais ils ne versent pas d'indemnité pour autant.
C'est le cas de Solocal, ex-passe jaune. Il existe pourtant un accord. Frédéric Gallois, délégué syndical central FO de Solocal, réclame le versement immédiat des indemnités.
Nous avons un accord de télétravail qui prévoit 7,50 euros par jour. Et du coup, aujourd'hui, ne s'applique pas parce que la direction se réfugie derrière le fait que nous ne sommes pas en télétravail, mais en travail à distance. Et là, on n'a rien compris. On s'est dit, mais c'est quoi la différence? Ah oui, non, mais le télétravail, c'est différent. C'est un accord. Là, le travail à distance, c'est les conditions sanitaires, c'est pas pareil. On lui a dit, mais les frais sont exactement les mêmes. Oui, mais on ne prendra pas en charge. Donc, on a eu zéro retour. On a eu une fin de non-recevoir et aujourd'hui les gens doivent mettre les mains à la poche pour pouvoir travailler de chez eux. Vous voyez la nuance pour ne pas faire appliquer les 7,50 euros par jour pour les collègues.
Des propos recueillis par Arnaud Touche pour RTL. En bref, cette annonce de Bercy faite il y a quelques minutes sur le fonds de solidarité, l'aide est jusqu'à 1500 euros pour les entreprises en difficulté est prolongée de 2 mois.
Et puis on apprend que le festival Solidaise, prévu du 18 au 20 juin, est annulé. Voilà, c'est annoncé par les organisateurs il y a quelques instants. C'est la deuxième annulation pour Solidaise après celle de l'an dernier. Il s'agit du premier gros festival à annoncer son renoncement.
On en vient à cet appel à présent, cet appel à l'aide de 20 Français bloqués au Costa Rica. 7 d'entre eux, malades du Covid, sont hospitalisés. 2 personnes sont même dans le coma. Le groupe, âgé de 60 à 75 ans, était parti avec un tour opérateur mi-janvier. Ils ont sollicité un rapatriement d'urgence, mais toujours rien depuis 2 semaines. Situation que dénonce Evelyne, originaire de Lorraine.
Je suis confinée depuis 14 jours, mais je ne suis pas malade. Le seul truc que j'ai, c'est que je suis positif. J'ai un compagnon et depuis hier, il est à l'hôpital. Pourquoi, je ne sais pas. Il m'a juste dit, je pars à l'hôpital. Je ne sais même pas dans quel hôpital de la ville il est. Je ne sais rien. D'ici peu de temps, on va tous se jeter par la fenêtre. Ça va mal se passer. Hein? On est tous dans un état lamentable. C'est simple, lamentable. On n'en peut plus.
Bien cauchemar, bien cauchemar.
C'est l'enfer sur Terre. Si vous voulez des vacances comme ça, moi, ça, c'est bon. Hein? J'en veux pas.
Evelyne, actuellement coincée dans sa chambre d'hôtel à San José, jointe par Antoine Casalta pour RTL.
On en vient au projet de loi contre les séparatismes, puisqu'un nouveau volet débarque demain à l'Assemblée, celui de l'école à la maison.
C'est le cas de 62 000 enfants en France, un chiffre qui a triplé ces trois dernières années. Mais le gouvernement veut limiter la pratique dans certains cas. Armelle Lévy, qu'est-ce qui va changer ?
Eh bien, désormais, il y aura un filtrage en amont pour encadrer plus strictement le dispositif. Jusqu'à présent, les familles avaient juste une déclaration à faire et l'école à la maison pouvait commencer. Maintenant, vous devrez demander une dérogation et le dossier sera examiné par l'éducation nationale ou le rectorat qui jugera d'accorder ou non l'autorisation d'instruction en famille. Quatre motifs de dérogation seront inscrits dans la loi. Si votre enfant est malade ou handicapé, s'il pratique un sport de haut niveau ou une activité artistique intensive, si vous êtes des parents itinérants ou si vous habitez loin de l'école la plus proche, et enfin, le dernier critère est plus vague, si cela répond aux besoins particuliers de l'enfant. Il faudra alors justifier phobie scolaire, harcèlement scolaire, haut potentiel faisant que l'enfant ne s'adapte pas. Ce qui sera pris en compte, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Le motif religieux ne sera pas un critère pour demander une dérogation. En tout cas, les parents ne pourront plus mettre en avant leur envie d'une éducation différente. Cela ne suffira pas. Cette nouvelle loi, une fois votée, entrera en vigueur à la rentrée 2022.
Les explications d'Armelle Lévy pour RTL. Une information pratique tient pour les parents d'élèves en raison des risques de verglas. Pas de transport scolaire demain en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et en Seine-et-Marne. 13 départements, principalement au nord-est, passant en vigilance orange, neige, verglas ou grand froid.
On marque une courte pause et puis dans un instant, on parle du procès des Roupous du 18e arrondissement de Paris, accablés par des écoutes à l'intérieur de leur voiture de police. A tout de suite.
RTL Soir.
Et le journal d'Aude Vernouchot se poursuit avec le procès des policiers de la BAC du 18e arrondissement de Paris, avec des preuves cette fois assez accablantes.
Six d'entre eux sont soupçonnés d'avoir racketté des dealers dans le quartier de la Goutte d'Or. En échange de quoi, ils fermaient les yeux sur leur trafic. Les voitures des policiers avaient été placées sur écoute et des extraits ont été diffusés aujourd'hui. On y entend les policiers proposer clairement une assurance aux trafiquants à l'ENAF.
Ils ont mis le gyrophare et la sirène et rigolent dans leur voiture. Entre eux, un petit dealer surnommé La Boule. Un policier. Bon allez, je te donne la placette là, t'auras aucun souci. De temps en temps, tu nous donnes un bon petit tuyau. Un autre. Ouvre un petit terrain, tu te feras un petit 1 500-2 000 euros par jour. T'as déjà entendu parler de l'assurance? Réfléchis, mon pote. Et comment tu vas l'ouvrir, ce terrain? Je te ferai signe, souffle La Boule qui rigole un peu moins. Alors c'est quoi cette assurance? Demande la présidente au principal prévenu, Karim. C'était du bluff, madame la présidente. Les dealers sont persuadés dans leur tête que c'est une protection policière, mais c'est un fantasme. Les autres policiers prévenus, plus jeunes, ont entendu ce mot « assurance » à la BAC, mais peinent tous à l'expliquer. « Pour moi, ça voulait dire « donne-nous des infos, on te laisse tranquille », murmure l'un. « C'était une plaisanterie, un jeu de rôle », bafouille un autre. « Mais il n'y avait aucune contrepartie », demande la présidente. « Non, non, bredouille Karim en tortillant ses petites mains. « Absolument pas. » Il finit par lâcher à demi-mot que l'assurance, c'était des infos en échange d'une garantie de tranquillité, mais pas contre de l'argent, sans presse-t-il d'ajouter.
Anne Le Hénaff du service police-justice d'RTL. On en parlait dans le journal de 18h, le procès de Marine Le Pen et Gilbert Collard. Le tribunal rendra sa décision le 4 mai prochain. Et puis on vient de l'apprendre, deux policiers sont mis en examen pour violence volontaire. Ils sont soupçonnés d'avoir éborgné Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes. C'était lors d'une manifestation en janvier 2019 à Paris.
Le projet de loi climat a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Tiens, justement, si vous êtes en voiture, tendez l'oreille. Ça pourrait vous concerner à terme.
Un texte issu des propositions de la Convention citoyenne pour réduire de 40% les gaz à effet de serre d'ici à 2030. Les transports et l'automobile sont évidemment concernés, à commencer par les restrictions de circulation dans les villes, Christophe Bourreau.
Oui, puisque les ZFE vont se multiplier. Vous savez, ce sont ces zones à faible émission où la circulation des véhicules les plus polluants est interdite. Déjà en place dans les grandes villes, comme à Paris et Lyon. Et bien, dès 2025, cela va s'étendre à l'ensemble des agglomérations de plus de 150 50 000 habitants, 45 au total, ce qui veut dire concrètement qu'un bon tiers du parc automobile actuel en serait exclu, puisque seuls les modèles essence et diesel les plus récents, ainsi que les électriques et les hybrides, pourront y accéder, ce qui correspond aux vignettes critères 0, 1 et 2. Pour les automobilistes concernés et qui souhaitent changer de voiture, le gouvernement réfléchit à un coup de pouce de 1 000 euros venant s'ajouter aux aides déjà existantes. Deuxième mesure, la mise en place de voies de circulation réservées aux voitures électrifiées et au covoiturage. Enfin, les constructeurs ne pourront plus vendre des modèles émettant plus de 95 grammes de CO2, avec toutefois des exceptions comme par exemple les 4x4 utilisés par les secours, et cela à l'horizon 2030.
Christophe Bourou pour RTL. En football, ce coup de théâtre au FC Nantes, à peine arrivé, déjà limogé. Après 7 matchs sans victoire, Raymond Domenech doit partir. D'après nos informations, c'est l'ancien joueur et ex-coach de Toulouse, Antoine Kumbuaré, qui doit lui succéder dès demain.
Toujours en football, les 32e de finale de la Coupe de France quand même.
Alors Dijon affronte Lille depuis quelques minutes. À 21h, coup d'envoi du match Camp PSG. Quelques résultats. Nice a gagné 3-1 à Nîmes. Brest l'a emporté 2-1 face à Rodez. Victoire aussi des Messins 2-1 face à Amiens.
Et Marseille, vous oubliez Marseille quand même.
Vous avez le résultat?
Oui, Marseille qui a battu Auxerre quand même. 2-0, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné ces Marseillais.
Les clubs professionnels sont, eux, financièrement aux abois et la Ligue de foot professionnel a demandé hier soir un plan de soutien d'urgence à l'État. Entre la pandémie et l'affaire des droits télé qui a fait chuter de moitié les revenus télévisuels, Nicolas Georgerot, la situation est tout bonnement alarmante.
Oui, parce que les pertes en cumulé, selon la Ligue, seront comprises entre 1 milliard et 1 milliard 300 d'euros. Un prêt garanti par l'État, un autre bancaire ont été contractés, pas suffisant. La LFP souhaite donc discuter avec Bercy et le ministère des Sports. Noël Le Graët, le président de la Fédération française, soutient les clubs dans la démarche, mais appelle aussi à la raison.
Je pense qu'ils ont raison, parce que c'est une activité industrielle, à la limite lourde, qu'ils essaient à juste titre de trouver des compensations, oui. L'État fait déjà beaucoup quand même, il faut être réaliste, j'aime pas trop quand on critique sans arrêt l'État, quand on sait plus quoi dire, c'est l'État.
D'autant que la pandémie n'a fait qu'accentuer une situation déjà compliquée pour certains clubs. Parmi les pistes, obtenir un allongement des délais de remboursement du PGE ou être exonéré de certaines taxes comme la taxe Buffet qui alimente le foot amateur. Au ministère des Sports, on dit être ouvert à la discussion et avoir des choses à proposer.
Alors il y a une autre piste aussi peut-être à creuser, Nicolas, c'est la baisse du salaire des joueurs. Il y a des clubs qui ont réussi à le mettre en place.
Alors certains, oui, mais ce n'est pas la majorité. Reims, Strasbourg, Lens, Montpellier par exemple ont publiquement annoncé que des accord avait été trouvé. Discussion en cours ou sur le point de s'ouvrir à Angers, Bordeaux, Lille, Lyon ou encore Lorient. Nantes et Brest n'y pensent pas pour l'instant. À Paris et Marseille, c'est au point mort. Bref, au final, dans l'élite, un quart des clubs a obtenu pour l'instant une baisse des salaires.
Merci à vous Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. Et puis vous connaissez sa voix, peut-être un peu moins son sens de l'humour.
Qui ça, hein ?
Elton John participe à un spot pour inciter les Britanniques à se faire vacciner contre le Covid. Une vidéo sketch dans laquelle il passe un casting pour faire cette pub comme un inconnu.
My name is Elton John. And as you can see, I'm still standing.
Thank you. Je vous invite à visionner la vidéo. Il imite très bien l'acteur Michael Caine aussi.
Ouais, I'm still standing. Et il est toujours là, effectivement, Elton John. Et il dit aux Anglais de se faire vacciner. Merci beaucoup, Aude Vernuccio.